freezing temperatures and frozen assets,
des températures glaciales et des capitaux gelés sont une combinaison mortelle pour le peuple afghan. Sans un engagement créatif, flexible et constructif de la communauté internationale, la situation économique de l'Afghanistan ne fera que s'aggraver. Le désespoir et l'extrémisme se développeront. Nous devons agir maintenant pour empêcher l'effondrement économique et social et trouver des moyens d'éviter de nouvelles souffrances pour des millions d'Afghans.
Il y a 6 mois, le 15 août, Kaboul, la capitale, tombe sans résistance aux mains des talibans, ces fondamentalistes religieux qui ont fait aujourd'hui de l'Afghanistan un émirat islamique. Aujourd'hui, l'ONU, par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres, réclame à la communauté internationale une aide exceptionnelle de 5 milliards de dollars. Jamais l'ONU n'avait fait une telle demande pour un seul pays. Mais cette aide financière, ainsi qu'une éventuelle reconnaissance internationale, sont les deux seuls leviers sur lesquels les pays occidentaux peuvent agir pour tenter de dissuader les talibans de mettre en place un régime aussi dur qu'il y a 20 ans. Dans ce pays qui ne survivait que grâce à une aide internationale massive désormais suspendue, 20 millions d'Afghans sont aujourd'hui menacés de famine, soit la moitié de la population.
Les produits alimentaires comme un sac de farine, c'est 2000 afghanis, 20 dollars. Le riz, c'est 15 dollars. Le thé vert, c'est 4-5 dollars le kilo. Et moi, je gagne l'équivalent de 50 centimes par jour. Tout est cher maintenant.
La monnaie afghane s'est effondrée. L'essence est devenue inabordable. Les coupures d'électricité sont régulières. Et la répression est déjà bel et bien en place. Arrestations, disparitions, homicides. Les femmes sont interdites de travail et les filles d'école.
Toujours je pense, est-ce que je peux sortir un jour de ma maison seule? Est-ce qu'un jour je vais prendre mon licence ou non, mon master ou non? Je suis perturbée maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est une pensée qui me dérange. Pas moi, toutes les femmes.
Ce reportage commence à Kaboul, la capitale afghane. Au milieu d'une foule massée là en attente d'une distribution de nourriture du PAM, Programme Alimentaire Mondial. Les habitants du quartier comptent dessus pour vivre ou survivre. La distribution normalement quotidienne est confiée aux autorités locales, son représentant sur place du PAM. L'Afghanistan entre la faim et la peur. Un reportage de Vanessa Descoureaux.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Là, on est devant un bâtiment avec d'assez grandes grilles. Le bâtiment est bien protégé. On va assister à une distribution alimentaire dans quelques temps. Pour l'instant, les grilles sont encore fermées. Il y a de plus en plus de monde devant. Il y a beaucoup d'hommes en fait qui attendent. Il y a aussi quelques femmes qui sont sur le côté. Là, juste à côté de nous, il y a une très vieille dame qui vient demander de l'aide. Donc la distribution devrait commencer dans pas longtemps. Là, il y a un monde assez invraisemblable, puisque la file d'attente est en train de bloquer la rue.
Nous vivons dans des conditions insoutenables depuis les fortes chutes de neige. Nos tentes n'ont pas tenu. J'ai des enfants, une famille. Si vous voyez ça, vous verriez bien que c'est invivable dans ces conditions. Je viens ici régulièrement pour chercher de l'aide. J'en suis à ma troisième ou quatrième tentative et chaque fois, je suis reparti les mains vides. Jamais ils ne me donnent de quoi manger. Ils ne m'ont même pas donné le coupon pour avoir accès à la distribution.
Est-ce que vous mangez, très honnêtement, tous les jours?
Je mange au mieux une fois par jour avec mes enfants. Et cette fois-là, le repas, c'est du thé vert avec du pain. Nous ne cuisinons ni riz, ni farine, ni huile. Nous n'avons rien de tout cela.
Dans votre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille?
Nous sommes si pauvres, pas de travail, rien, personne n'a de revenus. Pour vivre avec mes enfants, on ramasse des déchets, des eaux, du plastique, des bouteilles, des sacs.
Il y a de l'impatience. Comment vous vous appelez, monsieur?
Bakhtiar Safai.
Bakhtiar Safai, j'ai 27 ans.
Vous venez souvent ici?
C'est la deuxième fois que je viens.
Tous les jours, les gens du quartier viennent à 5h ou 6h du matin. Ils viennent ici, ils tapent à la porte et personne ne leur répond. Nous devrions avoir une bonne gestion de ces distributions pour commencer. Je suis une personne éduquée, j'ai la responsabilité des gens de mon quartier. C'est moi qui les appelle pour leur dire « Viens demain et prends ce qu'ils te donnent ». Mais quand on se présente ici, on ne voit personne et on n'a aucune réponse. Hier, nous sommes venus dès le matin, nous avons attendu en vain jusqu'à midi.
Et il ne s'est rien passé. Est-ce que vous redoutez de la corruption dans ce genre de distribution ?
La première fois qu'on est venu ici, ils ont mal noté nos noms et mal écrit nos numéros de téléphone. Donc quand je suis venu chercher des produits, mon nom n'était pas le bon et celui de mon père non plus. Pour quelle raison ? Parce que si l'un de leurs proches a une identité similaire, ils peuvent détourner mon identité au profit de quelqu'un de leur relation. En tout cas, ça s'est passé comme ça la première fois. Je ne me bats pas pour moi, mais pour ces gens autour. Je suis l'un des leurs.
Alors, ce qui est en train de se dégager, c'est qu'il n'y aura pas de distribution alimentaire aujourd'hui, il n'y en aura pas demain, il n'y en aura pas dans les prochains jours, puisque ceux qui assurent cette aide ne viendront plus. C'est ce qu'assurent les jeunes gens qui gardent l'endroit où avaient lieu par le passé ces distributions. Ils sont partis, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, il n'y aura pas de distribution ici à nouveau. Et on conseille aux habitants du quartier d'aller se plaindre au conseil de quartier pour que les distributeurs reviennent. Et ça semble un peu compliqué de revenir en arrière. Herat, c'est la grande ville de l'Ouest afghan, c'est peut-être l'une des plus libérales aussi, selon les critères du pays en tout cas. C'est surtout l'une des cités les plus importantes sur le plan économique, pour son artisanat, pour son textile, mais aussi pour sa proximité avec la frontière iranienne. Mais Herat aussi est asphyxiée économiquement. Pour vous donner une idée, en quelques mois, la monnaie nationale a perdu un tiers de sa valeur et on va le constater sur le marché de la ville.
Je m'appelle Abdelaziz. Les prix sont montés si haut et si vite. On n'a pas d'argent pour se nourrir. Notre vie est dure, j'ai un fils. J'ai dû l'envoyer traverser la frontière iranienne. J'ai demandé à ce commerçant de me faire crédit, mais il vient de refuser. Nous n'avons rien, pas d'argent. Et il ne nous fait plus crédit comme avant. C'est ça notre vie. Maintenant, notre destin est entre les mains d'Allah. Le gouvernement est aux affaires, ils sont censés régler la situation. Mais nous, le peuple, on ne peut rien faire. Nous sommes là à attendre comme des spectateurs, à les regarder. Pour tout, les prix sont si élevés, nous n'avons plus rien dans la poche. Et mon unique fils vit aujourd'hui en Iran illégalement. J'ai 8 membres de ma famille à nourrir. Parfois, j'obtiens que quelqu'un me prête un peu d'argent. Et là, je peux acheter de la farine. Mais aujourd'hui, plus personne ne nous prête rien, même plus commerçants. C'est comme ça qu'on vit, on n'y peut rien. Il y a eu des sécheresses par le passé qui ont affecté l'économie, mais jamais une telle pauvreté.
Salam.
On est dans les shops d'un marchand de tissus.
Vous avez connu
mesures sont prises.
Je m'appelle Jamshid Sharifi. Je suis un habitant de Herat et je suis vendeur de vêtements pour hommes.
Pouvez-vous me dire si vous, tout simplement, dans votre magasin, vous avez dû augmenter les prix ?
Oui. Pour un mètre, puisqu'on vend en mètres, on a augmenté de 35 à 40 afghanis le mètre, ce qui fait une sévère augmentation. Avant, on avait des clients qui venaient et qui achetaient des vêtements de plusieurs couleurs. Mais maintenant, ils ne viennent plus ici. Pourquoi ? Parce que c'est une crise économique majeure. Les clients n'ont pas d'argent pour acheter parce que les prix sont tellement élevés.
Pour avoir une idée, combien il y avait de clients par jour avant, combien il y en a maintenant ?
Aujourd'hui, il y a des jours où je n'ai pas un seul client.
À la sortie de cette échoppe, une femme fait ses courses avec son fils. Un taliban s'arrête dans notre dos pour écouter ce qu'elle a à dire. Sans trembler, avec un immense courage, elle prend la parole librement. Je m'appelle Sahira. Est-ce qu'il y a eu du changement dans votre vie avec l'arrivée des talibans ?
Oui, il y a eu du changement. Les prix ont grimpé d'un coup, entraînant les problèmes qui vont avec. Les prix sont plus élevés, les gens plus pauvres. Moi, mon mari est handicapé. Il a perdu sa jambe durant le régime du docteur Najib. Et vous n'imaginez pas les problèmes depuis.
Vous avez une idée de la raison pour laquelle les prix sont aussi chers, aussi élevés maintenant ?
Tout le monde sait que le régime a changé et que depuis la crise a explosé. L'ancien président a fui. Depuis, notre pays et notre peuple s'enlisent dans la crise. Les gens ont beaucoup de problèmes. À cause de la peur des talibans, les gens ne sortent pas facilement. Certains citoyens espionnent pour eux, leur font des rapports. À cause de son handicap, ils soupçonnent mon mari d'avoir travaillé avec les militaires. Ils nous font vivre dans cette peur. Nous sommes en train de nous diriger de manière assez acrobatique, je ne vous le cache pas, vers des champs de safran, puisque c'est l'une des richesses de la région d'Herat. C'est ici que pousse l'épice, l'une des épices les plus chères du monde, plusieurs dizaines de milliers de dollars le kilo. Il y a en Afghanistan 40 fois moins de surface dédiée à la production de safran qu'il n'y en a pour celle de l'opium. Et on va voir donc comment s'en sortent les producteurs de safran depuis que les nouveaux maîtres du pays se sont emparés également des rênes du secteur économique. Après une bonne vingtaine de minutes de piste, nous voici à côté de ces champs où est produit le safran. Tout autour de nous, nous sommes entourés de montagnes dont les sommets sont enneigés. En cette saison de l'année, c'est assez normal en Afghanistan. Et en ce qui nous concerne, nous, on est vraiment dans la plaine, aride, complètement, quasi désertique à vrai dire. Et on va aller voir les gens qui s'occupent de la production de cette si fameuse épice qu'est le safran.
Chef, Je m'appelle Hadji Paysal Mohammadi. Je suis propriétaire de 30 hectares où je produis du safran ici et là-bas.
Combien de kilos vous êtes en mesure de produire ?
On arrive à produire 1 kilo par hectare. Avec plus d'engrais, on pourrait faire 5 kilos.
Vous savez bien mieux que moi que la crise économique est énorme et colossale en ce moment en Afghanistan. Quels sont les problèmes que vous rencontrez en tant que producteur ?
Cette année, pour nous, c'est l'inverse. Ce n'est pas mauvais. On a moins produit, mais on a vendu plus cher. L'an dernier, on vendait le kilo à $500 et cette année, c'est $1000. Mais si nous n'avions pas de sécheresse et si nous avions plus d'engrais, on pourrait produire plus et fournir de l'emploi à plus de travailleurs qui pourraient gagner leur vie.
Est-ce que quelque chose a changé pour vous depuis que les talibans sont arrivés ?
Nous sommes satisfaits du gouvernement de l'Émirat islamique parce que le pays est plus sûr désormais. Avant, il y avait tellement de vols. On pouvait se faire braquer pour une voiture. C'était de l'insécurité permanente. Donc nous, ça nous va. On peut voyager de jour comme de nuit sans se sentir en danger. La sécurité est revenue. Pour des producteurs comme moi, c'est une très bonne chose. Pour les riches et les gens en bonne santé, l'ancien gouvernement était bon. Mais pour les pauvres et les producteurs comme moi, celui-ci est parfait. Dieu merci, ce gouvernement apporte la sécurité.
Est-ce que vous avez reçu de la visite des nouvelles autorités locales ?
Non, ils ne sont pas venus. Parfois, ils passent, juste jeter un œil sans s'arrêter. Ils regardent, mais ils ne nous demandent rien. Contrairement au précédent gouvernement qui nous demandait toujours des taxes. Quand tu gagnais 10 000, ils te réclamaient 1 000 afghani. Dieu merci, le nouveau régime ne demande rien. Ils n'ont pas imposé de nouvelles lois, pas encore. Peut-être que dans le futur, ils exigeront une taxe, alors là, on devra payer.
À l'entrée de ces champs de safran, on aperçoit quelques maisons en briques de mauvaise qualité. Aucun câble électrique ne relie ces demeures au réseau. Elles sont posées là, au milieu de nulle part, dans un dénuement total. C'est ici que Diba vit avec ses 8 enfants. Elle travaille dans ses champs depuis une dizaine d'années.
C'est difficile de ramasser ces fleurs. On se réveille si tôt le matin pour ramasser les fleurs. Ensuite, on les place au soleil pour qu'elles sèchent. Puis on enlève délicatement le pistil et on les classe en 3 catégories. Les fleurs rouges, les violettes, les jaunes. Après les avoir séchées quelque temps au soleil, on les remet au propriétaire qui les met à l'abri.
Combien vous gagnez ?
Par kilo, 50 centimes pour tout le processus. C'est si difficile parce que pour faire un kilo, il faut une journée entière. Et à la fin de la journée, on ne reçoit que 50 centimes.
Et avec les nouvelles autorités, vous êtes en mesure de continuer votre travail ?
Non, personne n'est venu pour nous demander d'arrêter. On fait comme avant avec le précédent régime. Même si la production cette année a été moins bonne, c'est la seule activité qu'on puisse faire ici. C'est notre seul gagne-pain. La ville est trop loin, donc personne ne nous a demandé d'arrêter.
Mais avec un salaire aussi faible, comment vous arrivez à vivre, à nourrir vos enfants ?
Les produits alimentaires, comme un sac de farine, c'est 2000 afghani, $20. Le riz, c'est $15. Le thé vert, c'est $4-5 le kilo. Et moi, je gagne l'équivalent de 50 centimes par jour. Tout est cher maintenant. Avec la situation, il n'y a plus de travail ou de possibilités économiques. C'est difficile pour nous. Et puis, même si on trouve du travail, les salaires sont si faibles qu'on ne peut pas s'en sortir même en travaillant. Si tu travailles de toutes tes forces, on te donne au mieux 4000 afghani. Avec ça, tu peux juste acheter 2 sacs de farine et c'est tout. Tu ne peux rien acheter de plus. Et avec ça, tu fais quoi ? Tu tiens 20 jours avec 2 sacs, c'est tout. Ce qu'on gagne avec le safran, c'est trop peu, c'est rien à côté des prix qui ont explosé. On ne peut rien se payer de plus. On survit avec le pain. Et c'est tout.
Il y a donc cette crise économique qui semble aujourd'hui inéluctable. Il y a aussi ces atteintes aux droits des femmes les plus fondamentaux, se déplacer, travailler, s'instruire. Ou même, comme à Herat où nous étions avec Vanessa Descoureau, leur interdire l'accès au hammam, ce qui revient à priver du minimum d'hygiène toutes celles dont les foyers n'ont ni eau ni sanitaire. Depuis la prise de Kaboul, les militantes des droits des femmes sont victimes d'attaques, d'intimidations, d'arrestations arbitraires. L'accès à l'école pour les filles est interdit au-delà de 12 ans. La situation est soi-disant provisoire, en attendant, disent les talibans, de pouvoir garantir leur sécurité et l'aménagement des locaux pour une séparation stricte des hommes et des femmes. L'enseignement est donc aujourd'hui clandestin, avec les risques que ça suppose.
Nous sommes dans le salon de Zoual, c'est une institutrice de 37 ans. Elle assure depuis plusieurs mois des cours clandestins chez elle, donc dans son salon, autour du poêle qui est en train de surchauffer la pièce. Il y a ce matin une quinzaine de jeunes filles et de fillettes qui assistent à son cours. On va interrompre quelques instants seulement, je vous rassure, Zoual, dans les leçons que vous donnez chez vous, donc ces cours clandestins. On va d'abord vous demander pourquoi vous avez pris cette décision d'assurer ces cours secrets.
C'est évident que ce n'est pas facile de convaincre les familles. Mais ce n'est pas facile pour moi non plus d'organiser ces cours. C'est une menace pour elles, c'en est une pour moi aussi. Je ne peux pas les appeler toutes en même temps, ce ne serait pas discret. Vous avez vu où est ma maison, en plein milieu du marché. Je les appelle individuellement pour qu'elles viennent par deux ou trois à des heures différentes et ensuite on peut commencer les cours. J'appartiens à une famille résistante. Lors du précédent régime des talibans, ma mère était professeure. Elle faisait déjà des cours clandestins à la maison. Elle avait des centaines d'étudiantes, 250 je crois. Elle n'a jamais arrêté de le faire, même si elle recevait énormément de menaces. À cette époque, des Français l'ont aidée. Ils l'ont aidé financièrement et pour maintenir cette école. Chaque mois, une femme du nom de Chantal apportait un salaire pour le travail qu'elle accomplissait avec les étudiantes. Après ça, j'ai décidé de suivre les pas de ma mère. J'ai fait ce choix, peu importe les problèmes que je dois affronter. Même si je reçois des menaces pour ma sécurité, j'accepte de prendre tous ces risques pour servir mon pays et pour aider ces jeunes filles.
Comment vous vous organisez pour les faire venir? C'est au dernier moment? Comment ça se passe?
Le premier jour, quand j'ai décidé d'ouvrir cette classe à la maison, je leur ai laissé le choix de l'heure et de la durée des leçons. Je ne voulais pas leur imposer un horaire strict. L'emploi du temps est libre. Elles ont déjà assez de restrictions comme ça dans la vie quotidienne. Comme je suis à la maison du matin au soir, je peux me permettre de les laisser décider, car je suis toujours là. C'est aussi en fonction de la météo et des autres restrictions. C'est à elles de décider quand elles peuvent venir étudier. Si j'aide ces filles, elles m'aident aussi. Quand elles viennent ici étudier, elles me donnent un peu d'argent. De cette façon, je gagne ma vie, je perçois un petit revenu. Depuis la prise de pouvoir par les talibans, il n'y a plus de salaire pour les fonctionnaires. Cette somme que je reçois me permet de vivre et moi, je leur permets de poursuivre leurs études. De cette manière, nous y gagnons toutes. C'est une façon de leur donner un peu d'espoir pour leur futur. Je les éloigne du stress psychologique qu'elles subissent. Au moins, le temps de la leçon, elles ne pensent pas à la situation. Je participe à maintenir leur espoir en vie. C'est un énorme risque de faire ça, mais je l'accepte.
Tu,
Ofarinendae,
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 آسمان ها
آسمان ها
و زمین
و زمین
هستی
هستی
Aujourd'hui, c'est une classe un peu particulière puisque les jeunes filles qui sont présentes ici ont des âges assez différents. Donc, Zoual les fait venir une à une devant elles pour s'adapter à leur niveau, bien évidemment. Là, c'est un cours de géographie. Comment tu te sens tout simplement d'assister à ce genre de leçon ?
C'est
difficile pour nous d'étudier dans ces conditions. Mais c'est mieux d'être ici que de rester assise à la maison à ne rien faire. Notre professeur a créé cette classe et nous permet d'apprendre encore malgré la situation autour de nous. C'est pour cette raison que je me sens bien. Alors que des gens n'ont rien à faire, nous avons cette opportunité et ça me rend heureuse.
Et vos parents, alors ça a été compliqué de leur dire que vous deviez, vouliez venir ici ?
Au début, c'était dur de les convaincre. Mais ensuite, ils sont venus visiter l'endroit. Ils ont été rassurés. Et finalement, ils ont dit oui.
Je m'appelle Mahashid. Je suis là seulement pour continuer mes cours que je ne peux plus suivre à l'école. Notre professeur enseigne depuis quelque chose comme 15 ans. En plus, elle connaît bien ma mère. Donc ma mère m'a informé qu'elle allait continuer et faire des cours. C'est pour ça que je suis venue la voir pour lui demander si je pouvais participer à cette classe. Elle m'a dit « Bien sûr, tu peux ». Ça a été un immense plaisir pour moi, même si les talibans ont pris le pouvoir.
Est-ce que pour vous, c'est du courage ou est-ce que c'est normal de venir ici pour vous ?
Une personne normale ne peut pas continuer comme ça. Malgré la situation, le danger, quelqu'un de normal ne peut pas faire comme si rien n'était. Toutes celles qui sont ici sont courageuses. L'avenir est incertain, elles étudient sans savoir pourquoi. Elles se battent, mais elles ne savent pas ce qui va arriver à l'avenir. Malgré cette situation, tu viens ici, tu étudies, tu veux construire quelque chose pour ton avenir, alors oui, c'est du courage.
Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier ?
En tant qu'être humain, ce que nous voulons, c'est être libre et faire de nos vies ce que nous voulons. Mon but est d'étudier les sciences politiques, c'est pour ça que je suis ici, pour me permettre d'atteindre mon but.
Peut-être la prochaine présidente d'Afghanistan ?
Bien sûr, à travers l'histoire, il y a beaucoup de femmes courageuses. Par exemple, notre héroïne populaire Malalai. Toutes ces femmes ont montré aux jeunes filles qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Je veux suivre leur exemple et me battre pour avoir le choix.
Extrait de Petit Prince. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le corps. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.
Astu.
Astu.
Shukur guzaram.
Shukur guzaram.
Astu.
Astu.
Shukur.
Shukur.
Guzaram.
Guzaram.
Je m'appelle Ruqya Ahmadi et je suis étudiante au département de français à l'université de Kaboul en quatrième année. Mais les universités sont fermées maintenant.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces études ?
C'était mon rêve d'enfance, d'enseigner le français, partager les cultures françaises que j'ai apprises à l'université.
15 jours avant votre diplôme, les talibans ont repris le pouvoir.
Oui. Je ne sais pas. Je suis vraiment déprimée mentalement. Est-ce que je vais arriver à mon rêve? Est-ce que je peux réaliser mon rêve ou non? Bientôt, nous allons tout être chez nous avec les portes fermées.
À quoi ressemblent vos journées, Rokia, sans université, sans apprentissage, sans cours, même en visio? À quoi ressemblent vos journées?
Lorsque le matin, je me réveille, après, c'est notre travail à la maison, faire le ménage, laver les vaisselles, laver les vêtements. Et seulement, je lis les livres en ligne et je passe ma vie, ma journée comme ça.
Comment vous arrivez à pratiquer votre langue française en ce moment?
Par Internet, par les sites, je pratique les exercices. Lorsque je veux pratiquer, je parle devant le miroir pour pratiquer.
Le 15 août, vous vous réveillez, vous apprenez que les talibans sont dans votre ville, ici à Kaboul. Vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire pour vous? Vous êtes dans quel état à ce moment-là?
Lorsque j'ai entendu que les talibans sont arrivés, j'ai dit, il faut que je dois fuir de ce pays. Ici, on n'a aucune valeur. Seulement être à la maison pour le travail de la maison. C'est tout pour les talibans. Toujours, je pense, est-ce que je vais sortir? Est-ce que je peux sortir un jour de ma maison seule? Est-ce qu'un jour, je vais prendre mon licence ou non, mon master ou non? Je suis perturbée maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est une pensée.
C'est une pensée permanente.
Permanente qui me dérange. Pas moi, toutes les femmes. Je vous remercie d'avoir entendu mes paroles.
Ben merci de les avoir données, surtout. C'est vous qui avez fait le
merci
plus dur.
Vous.
Merci beaucoup. Qu'est-ce que je vous souhaite?
Pour moi?
Exactement.
Aidez-moi d'obtenir mon licence. C'était mon rêve. Et je ne sais pas, est-ce que ça peut être réalisable ou non.
Interception sur France Inter.
S'ils s'en défendent, des rapports de l'ONU accusent les talibans d'avoir tué plus d'une centaine d'anciens membres proches du gouvernement et des forces de sécurité afghanes. Depuis leur prise de pouvoir, ils sillonnent les rues de Kaboul, mettent en place des checkpoints. Sous couvert de maintien de l'ordre, ils recherchent tous ceux qui travaillaient pour l'ancien régime, pour les troupes étrangères et les anciens policiers qui aujourd'hui se terrent pour leur échapper. Vanessa Descoureaux embarque avec ses talibans pour suivre une de leurs patrouilles.
Le commissariat du secteur 7 de Kaboul, c'est dans le sud-est de la ville. On va suivre une patrouille des talibans, une patrouille de la police que l'on voit partout dans la ville, à bord de pick-up verts ornés du drapeau blanc de l'émirat islamique. Et c'est le commandant Shah Mohammad Shams qui va diriger cette patrouille et nous accompagner. Comment c'était la sécurité avant que vous preniez le pouvoir ici?
Quand nous sommes arrivés, la situation était terrible. La sécurité était en dessous de tout. Après le coucher du soleil, les habitants de la capitale avaient peur de rester dans leurs magasins, dans leurs bureaux et leurs sociétés. Ils craignaient de devoir se déplacer le soir. Sur le chemin du retour, il y avait des vols de tout, d'argent, de téléphones. Ils pouvaient être braqués ou kidnappés. Les commerçants étaient effrayés à l'idée de transporter l'argent de leurs magasins. Dieu merci, grâce à l'émirat islamique, personne ne court ce risque. La sécurité est assurée. Plus personne ne vole personne. C'est pour ça que nous sommes ici, pour assurer la sécurité. Qu'importe le prix à payer, on est là pour servir le peuple. Les Moudjahidines assurent des patrouilles motorisées ou à pied, jour et nuit.
Vous attrapez quelqu'un, qu'est-ce qui se passe pour lui?
Alhamdulillah,
Dieu merci, il y a une chose très importante pour l'émirat, c'est l'obéissance au chef. Pour nous, les ordres donnés, c'est d'arrêter seulement les criminels. Pas de les torturer, de les condamner, on ne peut pas les poursuivre. Les poursuivre, ça, c'est à la justice de le décider. Nous, on les arrête, on les amène au commissariat. Nous nous comportons très bien avec eux. Nous ne les torturons pas, car nous obéissons aux ordres de notre hiérarchie, qui consiste à ne torturer personne. Et nous suivons les ordres.
Alors là, on s'est arrêté pour rencontrer les hommes qui tiennent le dernier checkpoint avant de quitter Kaboul et rejoindre la province voisine du Logar, dont on voit d'ailleurs les montagnes enneigées au loin. On va rencontrer ces hommes qui, eux aussi, sont dans leur pick-up vert avec leurs armes bien en évidence.
Je m'appelle Abdel Wakil Adel, du commissariat 7.
Qu'est-ce que vous recherchez dans les voitures que vous arrêtez ?
Nous recherchons ceux qui portent des armes sans autorisation, soldats inclus. Nous recherchons aussi activement les voitures volées. Nous contrôlons aussi ceux qui nous paraissent suspects. On se renseigne pour voir s'ils sont des criminels. Si c'est le cas, on les emmène au commissariat.
Vous aviez quel âge quand vous avez rejoint les talibans ?
J'ai environ 22 ans. Ça fait 8 ans que j'ai rejoint les talibans. Nous avons fait le djihad et nous avons rejoint l'émirat islamique.
Et maintenant vous êtes à Kaboul, la capitale, ça vous fait quoi ?
Nous nous sentons bien. On essaie de maintenir la sécurité telle qu'elle est aujourd'hui. Les Moudjahidines essaient de renforcer la sécurité et de servir les gens de la meilleure façon possible. Pour cela, je peux donner jusqu'à mon dernier souffle et même me sacrifier. Pour la sécurité, moi et mes camarades, on est prêts à se sacrifier si Dieu le veut.
Une voiture est arrêtée, ce sont des talibans qui sont à l'intérieur. On veut bien nous montrer qu'on contrôle aussi les talibans pour voir s'ils sont en règle. Tout était en règle donc. Est-ce que vous avez aussi des listes de gens que vous recherchez ?
Oui, nous avons deux listes émanant du QG de la police. La première est celle des voitures volées. Chaque commissariat envoie sa liste au QG de la police, qui les fait ensuite parvenir aux 21 commissariats. Ils nous donnent la plaque et on vérifie ça au checkpoint. Cette liste est évidemment donnée à nos combattants. La deuxième liste concerne, elle, les criminels. Elle nous est donnée et on la garde toujours sur nous.
Qui est recherché exactement ?
Ceux qui ont volé quelque chose ou ceux qui ont tué quelqu'un. Nous n'avons pas de liste concernant les activités politiques.
Et en ce qui concerne les anciens membres de forces de sécurité, est-ce qu'il y a des listes pour eux ?
Comme je vous l'ai dit, depuis 18 ans que j'ai rejoint l'émirat islamique, un mot est très important pour nous, c'est l'obéissance. On a reçu un ordre, c'est de leur pardonner, et nous leur avons pardonné. Ils peuvent vivre leur vie.
Nous sommes aux côtés de Souhela, qui a 40 ans, qui est une ancienne policière qui a servi 19 ans dans la police. Avant de vous présenter plus sérieusement, on va d'abord préciser qu'on se rencontre dans l'hôtel dans lequel je séjourne. On n'est pas chez vous pour des raisons de sécurité.
Vous avez vu qu'il y avait partout des talibans dans la rue. Je ne peux plus vivre chez moi. Je change d'endroit toutes les semaines. Je vis parfois chez mon frère, ma sœur ou encore chez ma fille.
Il y a des gens qui espionnent et qui font attention à qui va, qui vient.
Ils sont partout. Ils patrouillent dans les rues. Parfois, ils ont des informations via des vendeurs à la sauvette. Ils opèrent ainsi de façon plus insidieuse. C'est pour ça que je préférais venir ici. Je ne voulais pas que vous veniez à moi pour mettre en danger mes proches. Votre endroit est plus sûr.
Souhaila, je vais vous présenter un peu mieux. Alors, je l'ai déjà dit, 19 ans de service dans la police, mais les 7 dernières années, vous dirigiez le département qui était consacré aux droits des femmes dans un district, le district numéro 1, en l'occurrence, de Kaboul. Est-ce que ça fait de vous, cette spécificité de défenseuse des femmes, est-ce que ça fait de vous une cible particulière ?
S'ils nous trouvent, ils nous torturent et nous tuent. Oui, bien sûr, parce qu'on travaillait avec les femmes battues, les femmes victimes de violences conjugales. Certains hommes ont été emprisonnés. Mais après l'arrivée des talibans, tous les prisonniers se sont évadés. Et maintenant, ils nous cherchent.
Combien de temps vous pouvez tenir comme ça dans ces conditions de cette vie secrète, de cette vie cachée ?
Tant qu'ils seront là, on vivra caché, sous terre. Ma préoccupation principale, ce n'est pas ma vie. C'est le sort de mon fils, parce que lui aussi est un policier. Je n'ai plus d'espoir. Notre vie n'est faite que de dangers. Nous sommes sous la menace permanente. Quel espoir pourrions-nous avoir ? Nous ne savons pas jusqu'à quand ils seront là. Tant qu'ils seront là, les femmes seront à la maison sans salaire, sans travail, et leur vie va continuer à s'assombrir. Ça ne va pas s'améliorer, ça sera de pire en pire.
Désolée de poser la question, je crois avoir un peu la réponse, mais ils avaient promis une amnistie quand même.
C'est faux. J'ai un de mes voisins qui s'est débrouillé pour me faire passer un message. Il m'a dit calmement, faites ton mieux pour partir. Sinon, ils ont dit qu'ils te retrouveront. Ces gens parlent d'amnistie, mais en réalité, tous les jours, on voit qu'ils exécutent des gens. C'est ça la situation. Une situation de destruction.
Nous allons terminer ce reportage par une note peut-être moins noire que les précédentes. Nous sommes désormais dans un café-restaurant d'un quartier de Kaboul fréquenté par une jeunesse plutôt éduquée, assez favorisée. Ici, il y a parfois de la musique, il y a surtout beaucoup de chicha en ce moment. Il y a même quelques jeunes filles qui fument des cigarettes. Les voiles sont portées très très légèrement quand ils sont portés. Ces endroits, aussi étonnants que cela puisse paraître, ces endroits sont encore ouverts. Il y a eu cependant quelques avertissements lancés aux directions. Tout à l'heure, le patron de l'endroit dans lequel nous sommes nous disait qu'hier encore, une patrouille de talibans était venue s'émouvoir du fait qu'un couple se tenait la main. Mais pour le moment, ce ne sont rien de plus que des avertissements, ce qui fait que cette partie de la jeunesse kaboulie a encore un minuscule espace de vie quasi normal.
Au nom d'Allah, mon prénom est Asmat. Mon nom de famille est Nassir. Je vis à Kaboul et je suis ingénieur en téléphonie mobile.
Est-ce que tu peux d'abord me raconter ce que ça représente, ce genre d'endroit ici ? Est-ce que c'est un peu un goût de liberté ou quelque chose comme ça ?
Quand on vit en Afghanistan, un endroit comme celui-ci veut dire beaucoup pour nous. Aujourd'hui, on a été diplômé. On voulait fêter ça ici. On attend des amis et on espère passer un bon moment ensemble. Depuis la prise du pouvoir par les talibans, notre situation n'est vraiment pas satisfaisante. Avec le précédent gouvernement, c'était complètement différent. Mais maintenant, ils nous arrêtent tout le temps, dans la rue, sans raison, et on ne peut rien faire.
C'est quasiment le seul endroit où vous vous sentez libre aujourd'hui ?
Dieu merci, nous avons encore des endroits comme celui-ci. Si nous n'avions pas ça, ce serait encore plus difficile. Donc on vient en profiter tant que c'est encore possible. En raison du danger, on n'est pas autorisé par nos familles à aller dans d'autres provinces pour s'amuser.
Est-ce qu'un jour, il n'y a pas une crainte qu'ils ferment quand même un jour ce genre d'endroit ?
Bien sûr, c'est une évidence. Ils ne peuvent pas fermer encore ce genre d'endroit parce que la communauté internationale ne les reconnaît pas encore. Mais soyez sûr que dès qu'ils auront obtenu cette reconnaissance, ils fermeront des lieux comme ce café et tous les autres. Ils n'attendent que la reconnaissance internationale pour ça.
Ça veut dire que si un jour la communauté internationale arrive à une reconnaissance, ça veut dire que votre vie, très clairement, va encore plus s'assombrir.
Je pensais déjà et je pense encore à partir. Si j'ai l'opportunité, je partirai. Parce qu'ils nous imposent leurs lois si strictes et elles le seront de plus en plus. Et arrivera même le moment où on ne pourra plus porter de jeans. Nous ne pourrons plus nous habiller comme ça. Et ils fermeront tout.
Vous êtes sûr de ça ?
À 100% sûr.
L'Afghanistan. Entre la faim et la peur, un reportage de Vanessa Descoureaux. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Benjamin Vignal. Un reportage disponible dès maintenant sur franceinter.fr.